Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, petit message, il y a un truc qui ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, les notifications, les emails et toutes les distractions, eh bien, on n'est pas hyper nombreux à se sentir très productifs. On traîne, on procrastine, on ne priorise pas les tâches et au final, on termine toutes nos journées sans jamais avoir accompli tous nos objectifs. Et le pire, c'est que ça peut même impacter notre santé. Par exemple, on ne prend pas le temps d'aller voir son thérapeute pour une petite douleur ou pour faire un check-up. On ne met pas en place une séance d'étirement, on n'a pas le temps d'aller au spa se faire masser, de se faire des bons repas, etc., etc. Et pourtant, si je vous disais qu'il existait un moyen efficace pour être plus productif, pour en faire plus en moins de temps et de se dégager un maximum de temps libre, eh ben c'est possible grâce à la courbe biologique de la performance. Alors je m'explique. Le secret de la productivité, c'est pas de passer plus d'heures à bosser ou de se rajouter un maximum d'heures dans sa journée. C'est pas possible, on a que 24 heures et des obligations. Non, l'objectif, c'est d'identifier vos différents niveaux d'énergie, vos pics de concentration, puis de répartir vos différentes tâches de travail à des moments clés de votre journée et selon ces niveaux d'énergie. Et c'est ça ce qu'on appelle la courbe biologique de la performance. Et devinez quoi ? Il y a des tas et des tas d'entrepreneurs et de sportifs de haut niveau qui l'utilisent et qui leur permet d'accomplir bien plus que n'importe qui, en tout cas que vous et moi aujourd'hui. Et alors si je vous en parle, c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle. Mon ami Jérémy Coron, qui est spécialiste en neurosciences et qui était d'ailleurs passé dans l'épisode 76 du podcast, il vient de sortir un tout nouveau programme. Ça s'appelle Routine Haute Performance et ça va justement vous aider à décrypter votre propre courbe biologique pour vous créer une routine personnelle en fonction de vos niveaux d'énergie. Et alors, j'ai eu l'occasion d'appliquer ce modèle et perso, ça a complètement changé ma manière de bosser. J'ai eu de meilleurs niveaux de concentration, j'ai eu plus de motivation, plus de créativité, j'accomplis beaucoup plus. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez sûrement remarqué avec tout ce que j'ai lancé sur le podcast récemment. Et j'ai même pu reprendre des activités que j'avais laissées de côté depuis un moment. Alors évidemment, je vous recommande ce programme à 200%. C'est une formation vidéo en ligne sur 7 jours qui va vous apprendre à hacker votre cerveau pour en faire plus en moins de temps et pour vous dégager un maximum de temps libre. Et pour vous aider à franchir le cap, je vous ai négocié une réduction de fou furieux. Vous avez droit à moins 50% sur la formation et c'est uniquement pour vous les auditeurs du podcast. Alors pour récupérer le programme à ce tarif, vous allez sur biomecaniquepodcast.com/routine. R-O-U-T-I-N-E, et il n'y a que sur cette page que vous pouvez l'avoir à ce prix. Et tout est expliqué dessus. Mais attention, la promo dure uniquement jusqu'au 21 avril, c'est-à-dire dimanche prochain. Et alors attendez, c'est pas fini, parce que Jérémy s'engage personnellement à vous rembourser jusqu'au moindre centime si vous ne voyez aucun résultat sur votre productivité dans les 14 jours après avoir passé commande. Alors si avec ça vous n'êtes pas convaincu, je peux plus rien pour vous. Je répète une dernière fois, le programme Routine Haute Performance à moins 50%, c'est sur biomecaniquepodcast.com/routine. Et puis si vous écoutez le podcast sur Spotify actuellement, c'est encore plus simple. Vous pouvez retrouver le lien cliquable tout en haut dans la description de l'émission. Voilà, ça se termine dimanche prochain le 21 avril. Alors foncez et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer vos entraînements sportifs, à diminuer vos blessures, vos douleurs et qui vous permet surtout de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle de performance, on y parle d'entraînement, de blessures, de thérapie, de motivation parfois aussi et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des super invités qui m'accompagnent. Pour chacun des épisodes, je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada. Et aujourd'hui, je retrouve William KDM pour un épisode parfaitement à cheval entre le sport et la santé. William est coach sportif, c'est un passionné d'entraînement, de remise en forme et il est également diplômé en naturopathie. Donc l'association des deux disciplines, à savoir le coaching sportif et la naturopathie, m'a de suite convaincu que ça allait donner un super épisode de podcast. Et vous verrez que ça a été le cas. J'en suis très content. Je vous invite par ailleurs à suivre William sur son Instagram, que vous retrouverez en description, que je trouve particulièrement intéressant et riche en contenu, plutôt rare sur ce réseau social, donc ça mérite d'être souligné. Dans cet épisode, on a eu l'occasion de revenir sur la naturopathie, sa définition, ses fondements, ses principes, et surtout en quoi elle rejoint les intérêts d'un sportif qui cherche à progresser, à éviter la blessure et à être toujours plus en santé, évidemment. Si aujourd'hui vous prenez des compléments alimentaires, quels qu'ils soient, vous pratiquez en quelque sorte et sans le savoir la naturopathie, alors on aura le temps de discuter de pourquoi et surtout si la prise de compléments a du sens ou est parfaitement inutile pour vous. Vous découvrirez la différence entre naturopathie et naturothérapie. Comment être sûr d'avoir affaire à un naturopathe compétent et éviter évidemment les charlatans. On discutera aussi de comment William organise ses consultations en naturopathie, ce que ça lui a apporté dans sa vision de la santé, quelle association il arrive à faire entre le coaching sportif et ses traitements sur certaines maladies et quels résultats il a pu obtenir sur certaines pathologies inflammatoires de la colonne vertébrale notamment. Si vous appréciez cet épisode et le podcast en général, comme d'habitude, n'oubliez pas de lui laisser une petite note de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast sur l'iPhone. Ça m'aide beaucoup, plus que vous ne le pensez, à monter dans les résultats de recherche, à faire connaître le podcast un petit peu plus et à gagner en crédibilité pour lorsque je contacte de futurs invités et essayer de produire des épisodes avec des personnes hyper compétentes, parfois un petit peu difficiles à rejoindre dû à leur notoriété. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec William. On se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux me parler déjà dans ton premier entraînement en salle de sport? C'était dans quel contexte? Puisque tu n'es pas que naturopathe, puisque tu es aussi coach sportif, si je ne m'abuse.
Exact. Mon premier entraînement en salle de sport. Alors, j'ai toujours fait du sport, mais moi, j'ai les arts martiaux. Et mon premier entraînement en salle de sport, c'était pour préparer, parce que je m'entraînais au poids de corps à l'époque, c'était pour préparer les examens du BPJEPS. Le BPJEPS, le diplôme qui permet de devenir coach en France. Et c'était des cours de fitness. C'était des cours de fitness, des cours de step exactement, pour préparer l'examen où on devait présenter une chorégraphie.
Alors, c'est assez curieux parce que tu n'avais jamais fait de sport auparavant. Tu n'avais pas fait d'entraînement musculaire ou de fitness, je ne sais pas, on appelle ça comment on veut.
En fait, avant ça. Moi, quand j'ai passé mon PJF, je suis rentré à 20 ans. Et si tu veux, à l'époque, les salles de sport, ce n'était pas aussi ouvert que maintenant. Il n'y avait pas tout le courant low cost. On ne pouvait pas aller à la salle de sport aussi facilement. Et quand tu étais étudiant, une salle de sport, c'était minimum 70 euros, 80 euros par mois, je me souviens, là où j'habitais. Donc, on s'entraînait avec les potes à la maison. Il y avait bande développée couchée, il y avait du squat, il y avait une barre de traction. On faisait un peu de... À l'époque, c'était la méthode La Fée. Mmh. On faisait un petit peu de poids de corps. Mais c'était beaucoup plus difficile d'accéder à du matériel de musculation comme aujourd'hui. Donc, je me suis toujours entraîné, mais j'ai commencé vraiment la musculation en salle à 20-21 ans.
Et alors, pour rappeler un peu le contexte, toi, tu es de quelle génération, quelle année? Et tu as été influencé par qui ou par quoi pour vouloir devenir en faire ton métier, en fait?
Ouais, exact. Donc, moi, je suis né en 91. Donc là, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et quand j'ai commencé, c'était le début de Facebook, si tu veux. C'était, enfin, le début de Facebook, non, mais il n'y avait pas beaucoup de choses sur Facebook, il n'y avait pas beaucoup de choses sur YouTube. Il y avait juste, à l'époque, Christophe Cario et Rudy Koya. En tout cas, c'est eux dont je me souviens le plus. Rudy Koya, c'était vraiment pour la partie bodybuilding, on va dire, et Christophe Cario pour la partie fonctionnelle, arts martiaux. Et moi, à l'époque, c'était vraiment tout ce qui était entraînement poids de corps. J'avais un bouquin, ça s'appelait L'entraînement d'un détenu, je me souviens. L'entraînement poids de corps et l'entraînement type méthode La Fée qui m'avait plu parce que c'était la seule chose que je pouvais faire étant donné que j'avais très peu de matériel à disposition. Donc, c'est plutôt dans ce courant-là. Et comme je t'ai dit, je viens des arts martiaux. Donc, l'entraînement au poids de corps, c'est un petit peu la religion dans les arts martiaux.
Et on est de la même génération alors, parce que moi, c'est exactement la même chose. J'ai découvert Rudy Koya en premier lorsque j'étais dans les études, que j'ai commencé à m'intéresser à la prise de masse musculaire, à améliorer son physique, d'un point de vue esthétique en tout cas. C'est la première personne que j'ai découvert. J'étais très très content d'ailleurs de pouvoir l'avoir sur le podcast. C'était l'épisode 7, Rudy Koya. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez aller jeter une oreille. C'était très intéressant et j'étais vraiment ravi de l'avoir. Et par contre, Christophe Cario, c'est pas quelqu'un que j'ai découvert à ce moment-là. Je pense que j'ai mis un peu plus de temps. Ça a été quelques années après que j'ai vu Christophe Cario sur YouTube. Ensuite, ses livres, ses blogs. Ça fait même très très longtemps que j'ai envie de l'inviter sur le podcast, Christophe Cario. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Je ne lui ai pas encore envoyé l'invitation j'attends d'avoir plus d'épisodes, d'être un peu plus installé pour peut-être oser l'approcher. J'ai osé approcher certaines personnes qui sont très réputées dans le milieu, et puis je suis pas sûr que... Je pense que Rudy Koya, Christophe Cario, c'est des personnes qui ont à peu près le même niveau de notoriété, et j'ai osé approcher Rudy Koya pour l'avoir sur le podcast, mais pas encore Christophe, mais ça ne saurait tarder.
Aurélien Broussal, Olivier Bolli aussi, qui sont quand même des piliers, hein, c'est des monstres, hein, dans le domaine.
Mais tout à fait, et je pense que lorsque j'ai démarré le podcast, il y a maintenant un peu plus d'un an, j'avais vraiment pour objectif d'avoir Christophe Cario. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ses travaux, dans la manière dont je travaille, dont j'aime bien voir le corps, le fonctionnement du corps. J'ai été très influencé par son livre sur les postures. Un corps sans douleur. J'ai adoré ce livre. Ouais, ça a été vraiment, ça a eu une grosse influence sur ma façon de voir les choses après mes études. Et bon, ça fait partie des personnes que j'ai depuis le début vraiment envie d'avoir sur le podcast, mais je l'ai pas encore. Je pense que c'est peut-être aussi la peur de peut-être l'avoir sur le podcast et ensuite me dire ah ça y est, qui c'est que je vais inviter maintenant, qui c'est que je vais avoir après avoir eu Christophe Cario.
Il y a encore du monde, hein, maintenant. Il y a pas mal de monde. Je pense que t'auras de quoi faire. Hein.
Ouais, non, c'est vrai. Bon, je sais pas s'il écoutera cet épisode, peut-être, hein, on sait jamais. Mais de toute façon, je compte. Alors, est-ce qu'il acceptera mon invitation? Je sais pas, mais je l'inviterai à passer sur le podcast, ça c'est sûr, parce que j'aurai beaucoup de questions à lui poser. Bon, je m'égare un petit peu. Donc, on est de la même génération, ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien, si on veut.
On a vu les mêmes vidéos, on a lu les mêmes livres.
Ouais, c'est ça. On a un peu, mais de toute façon, les auditeurs sont un peu de cette génération aussi, j'ai l'impression, ou en tout cas se reconnaissent dans ce qu'on raconte. Et j'aimerais savoir maintenant comment tu as découvert peut-être la naturopathie. On aura l'occasion de revenir sur l'entraînement et la musculation un peu plus tard.
Moi, c'était un peu par hasard, dans le sens où je cherchais une manière de me guérir naturellement d'une tendinite. Si tu veux, j'avais fait le tour des ostéos, j'avais fait le tour de toute la médecine, pas dire manuelle, de toutes les thérapies manuelles, médecin du sport, onde de choc, j'avais pas fait la mésothérapie, mais voilà, c'était des inflammations chroniques, et je suis tombé sur des vidéos de Thierry Casasnovas. Alors Thierry Casasnovas qui est, maintenant c'est un youtubeur qui, je crois qu'il a 500 000 abonnés sur YouTube, c'est un gros nom, c'est quelqu'un qui est autodidacte, qui s'est formé tout seul à la naturopathie, et qui parlait justement des inflammations, des tendinites, et d'équilibre acido-basique, et de l'impact de l'alimentation sur les performances et sur la prévention des blessures. Donc moi, si tu veux, ça m'a parlé tout de suite. Donc à l'époque, j'ai bu ses paroles et j'ai mis en place tout ce qu'il proposait de mettre en place, avec ses limites, hein, bien sûr. Mais c'est là où j'ai vraiment eu un déclic, quand j'ai vu qu'en quelques semaines, j'ai réussi à me débarrasser de certaines douleurs que je traînais depuis des années, des années, des années. Juste en modifiant d'abord mon alimentation et après en utilisant par exemple un peu la phytothérapie, les huiles essentielles, certains compléments alimentaires. Et donc j'ai décidé de creuser, au début de manière un peu autodidacte, en m'auto-formant, en lisant beaucoup beaucoup de livres sur la santé, sur la naturopathie, sur les différents types de régimes, sur l'alimentation. Donc je me suis formé tout seul au début à la nutrition, même si on avait une petite base, parce que moi je viens de STAPS et après j'ai passé mon BPJEPS, on avait une base qui est quand même très très modeste, hein. Et donc après je me suis orienté vers une formation de naturopathie scientifique, parce qu'après il y a différentes écoles, il y a différents types de formations, étant donné que la naturopathie n'est pas reconnue en France, et donc c'était un cycle de 3 ans pendant lequel j'ai vraiment 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 découvert, approfondi le sujet de la naturopathie, et quand on met le pied là-dedans, ça donne envie de continuer à se former. Donc j'ai enchaîné, là cette année je passe un diplôme universitaire en micronutrition.
Et avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la naturopathie, de ses grands principes, donc le contexte, toi, ça a été une tendinite. Ça faisait combien de temps que tu t'entraînais et cette tendinite, elle était où et comment elle s'était manifestée?
En fait, c'était une tendinite du tendon rotulien qui a débuté dans mon adolescence quand j'ai commencé les arts martiaux. Moi, je viens du kung-fu à l'époque, donc c'est des positions très très basses. Et mon genou gauche, si tu veux, j'étais tout le temps en train de prendre des anti-inflammatoires, donc je me déglinguais l'estomac avec de l'ibuprofène, de la voltarène, etc. Donc ça a commencé par une tendinite chronique, qui malgré tous les traitements, malgré l'arrêt du sport, malgré la rééducation, malgré l'isolation sur l'équilibre quadriceps, ischio, les étirements, les massages, etc., ne passait pas. Et donc ça, j'ai mis en place un régime, si tu veux, un régime acido-basique. En gros, l'objectif c'est de diminuer un peu la charge acide des aliments que tu ingères et de favoriser l'élimination des acides via les reins, via les intestins. Donc c'est ça ce que j'ai mis en place au début, et comme je t'ai dit, j'ai réussi à m'en débarrasser assez rapidement. En tout cas, j'ai eu des résultats, une diminution de la douleur drastique au bout de quelques semaines, chose qui m'était jamais arrivée, quoi. Et en modifiant, en respectant des choses très simples à respecter, quoi.
T'avais déjà des notions de nutrition où tu mangeais, enfin tu mangeais quand même bien, ou c'était un peu déstructuré avant ça?
Quand je réfléchis à la façon dont je mangeais à l'époque, je pensais manger bien, mais avec du recul, je me rends compte que je faisais n'importe quoi.
Donc, est-ce que t'as un exemple, ouais, pour qu'on se mette, pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit?
Je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein, quand on commence la musculation et qu'on arrive dans les salles de sport et qu'on voit les mecs les plus baraqués de la salle prendre des protéines en poudre, on se dit que forcément c'est grâce à ça qu'ils développent leur physique. Alors, sans rentrer dans la question du dopage ou quoi que ce soit, hein, mais forcément j'ai été influencé par ça, ce qui m'a orienté vers la complémentation en protéines en poudre, donc beaucoup beaucoup trop de protéines par rapport à mes besoins. Je sais pas, je crois que je montais à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps avec une balance en micronutriments et en aliments basifiants pas suffisamment intéressante. Donc, si tu veux, je penchais beaucoup vers la balance acide et du coup, tout ça, ça répercutait sur l'inflammation.
D'accord. Tout ce qui est fruits, légumes, j'imagine, tu avais une notion de l'importance.
Si tu veux, il y a plein, on va dire que si on rentre dans le détail, par exemple, j'avais une grosse consommation de produits laitiers, j'avais une grosse consommation de céréales à gluten, j'avais une consommation de produits ultra transformés modérés, mais qui aujourd'hui, à mon sens, était trop importante. En fait, je mangeais normalement avec quand même pas mal de fruits et de légumes, mais quand on s'intéresse réellement à la qualité de l'alimentation et qu'on voit l'impact des aliments ultra transformés sur notre santé, on se rend compte que la limite entre manger bien et manger mal, elle est très très fine, et on peut très vite avoir une alimentation déséquilibrée sans s'en rendre compte.
Bon, donc tu découvres les principes de la naturopathie grâce à Thierry Casasnovas, qui est quelqu'un qui est un peu décrié pour certains. Il fait encore débat. Alors certes, il est très très connu aujourd'hui, mais certains le considèrent comme un gourou un petit peu.
Ouais, bon, après...
J'ai pas d'avis.
Moi, je n'ai pas non plus d'avis parce que je suis plus qu'il fait, mais en tout cas, je pense qu'il fait plus de bien que de mal, dans le sens où il a proposé une approche qui lui correspondait à une époque, il est revenu sur certaines choses, sur certains principes qu'il avait énoncés, qui étaient peut-être un peu borderline, mais comme tout être humain, on évolue, on fait des erreurs, on se remet en question, et le message devient de plus en plus limpide au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même la volonté d'aider le plus grand nombre de personnes. Après, évidemment, qu'il ne faut jamais suivre à la lettre, un peu bêtement, comme un mouton, les conseils de quelqu'un sans forcément réfléchir derrière. Donc, je pense que c'est surtout la faute aux gens qui ont tendance à ne pas se remettre en question, et à ne pas remettre en question les paroles des gens qu'ils écoutent. Hein. Et moi, le premier, et tous les gens qui passent sur le podcast, il ne faut pas non plus, je pense...
Oui, mais t'as raison de le rappeler. Je le dis pas forcément toujours, mais je pense que déjà c'est le podcast, je pense qu'il est déjà un format de personnes qui essayent d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion ou dans la compréhension des choses. Donc je ne dis pas forcément tout le temps ce qu'on dit n'est pas à prendre forcément tout au pied de la... c'est pas la vérité absolue, c'est pas voilà, réfléchissez un petit peu,
Il faut essayer de tendre. Il faut essayer de tendre vers la vérité avec les erreurs et l'expérience. C'est ça ce qui nous permet d'avancer, je pense.
À l'époque, il était très branché, je crois, sur les jus de légumes. Mais il a même développé un petit business sur les extracteurs ou les ou les de jus. Enfin, en tout cas, des machines pour faire des jus de fruits. Je sais pas trop ce qu'il en a en ce moment, mais en tout cas, c'est lui qui t'a mis vers la direction de la naturopathie. Donc, t'en es arrivé à faire une formation, et on va pas tourner autour du pot plus longtemps. C'est quoi exactement la naturopathie et ses grands principes ?
Alors, pour être le plus concis possible, la naturopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Au même titre que la médecine ayurvédique en Inde, au même titre que la médecine chinoise en Asie, la naturopathie, c'est la médecine qui vient de la médecine grecque, donc la médecine hippocratique, qui prône la santé via ce qu'on appelle des grands principes, dont l'hygiénisme. En fait, l'objectif dans la naturopathie, comme dans toutes les médecines traditionnelles, c'est de faire en sorte que l'organisme soit dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse s'auto-guérir en quelque sorte, pour qu'il puisse retrouver la vitalité, pour remettre en place, en route, les principes d'auto-guérison. Donc en fait, en naturopathie, et on en parlera après, on va essayer de faire la différence entre la naturopathie et la naturothérapie. En naturopathie, on est un peu dans le non-interventionnisme. On essaye juste de remettre l'énergie, le corps, sur les bons rails pour qu'il puisse par lui-même se régénérer, et on va juste apporter du soin, c'est-à-dire qu'on va apporter des éléments qui vont permettre de combler certaines carences, on va apporter des éléments peut-être anti-inflammatoires mais sans effet iatrogène, le temps que le corps se remette sur ses rails, on va corriger l'alimentation, on va corriger l'hygiène de vie, on va corriger le sommeil, on va corriger le stress, on va corriger la digestion, et une fois qu'on a corrigé les grandes bases en quelque sorte, le corps par lui-même peut se remettre en route pour se régler. Après, dans la naturopathie, il y a pas mal de techniques. Il y a l'hydrothérapie, il y a la phytothérapie, c'est-à-dire la médecine des plantes, l'aromathérapie, la réflexologie, les thérapies manuelles. C'est pour ça, tout à l'heure en aparté, je te disais que l'ostéopathie, si on veut prendre la naturopathie au sens large, fait partie d'une méthode naturopathique. Et en fonction du praticien, chacun va avoir plus ou moins d'affinité avec telle ou telle technique.
Ouais, c'est ça, ce que tu me disais en off, il y avait cette caractéristique commune avec l'ostéo, donc qui était d'aller chercher la source du problème, et d'aller essayer de corriger la source du problème et non pas la conséquence, ce qui est un petit peu décrié sur la médecine allopathique, qui en fait va être concentrée sur le symptôme, sur la conséquence du problème. Et là où les thérapies un peu alternatives, comme tu le dis, la naturo, l'ostéo, vont aller essayer de rechercher la cause du problème.
C'est exactement ça.
Beaucoup moins curative aussi, plus préventive. Et alors, deuxième caractéristique commune, qui est de permettre en fait au corps de retrouver son état d'équilibre. C'est que tu vas aider, tu vas pas forcément solutionner le problème, tu vas aider à solutionner le problème, et ensuite c'est le corps qui va retrouver. Moi j'aime bien cette façon de penser parce que ça remet un peu un cadre de modestie par rapport au thérapeute, qui est beaucoup moins le tout-puissant qui guérit. Un peu comme le médecin, je n'ai pas d'exemple particulier, puis j'adore les médecins, j'ai aucun problème par rapport à ça, mais c'est un peu l'idée du médecin qui en fait va guérir et va être le sauveur, là où moi-même ou d'autres thérapies alternatives vont être des starters de guérison. Enfin, on n'est pas à 100% responsable de l'amélioration, de la santé de quelqu'un. L'un des facteurs qui fait qu'on va amener du mieux.
C'est exactement ça. Et si tu veux, aujourd'hui, on fait plus suffisamment attention aux mots, mais les mots ont un sens. Et le corps, en fait, se guérit par lui-même. Le thérapeute, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte du soin. Et en tant que tel, en apportant du soin, il n'est pas dans de la guérison. Il n'y a que le corps, l'énergie vitale, si tu veux, les processus énergétiques d'auto-régénération qui vont permettre la guérison. Mais en aucun cas, une aide externe va guérir quelque chose. C'est juste du soin, on met le corps sur les bons rails. Donc évidemment que le thérapeute, que le médecin, c'est juste un guide, j'ai envie de dire, quelqu'un qui va remettre l'énergie, le corps, les pensées, parce que parfois c'est des schémas de pensée qui font que la personne ne peut pas guérir, sur les bons rails.
Tu me parlais de la naturothérapie aussi ?
Exactement, en fait... La naturothérapie, c'est ce qu'on a tendance à appeler la naturopathie aujourd'hui, c'est-à-dire faire de l'allopathie avec des méthodes naturelles, c'est-à-dire faire de l'antisymptomatisme avec des méthodes naturelles. Par exemple, j'ai un bouton, bah, je vais mettre une huile essentielle pour calmer la poussée d'acné, je me suis fait mal, je vais mettre une crème anti-inflammatoire naturelle, je vais prendre une plante anti-inflammatoire, etc. Alors, c'est des choses qu'on utilise, bien sûr, mais qui doivent rester à leur place, c'est-à-dire permettre de calmer le symptôme le temps de trouver et de corriger les causes. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ont l'impression de faire de la naturopathie et proposent des solutions naturothérapeutiques en donnant des choses antisymptomatiques avec moins d'effets secondaires, même si, évidemment, que la phytothérapie et l'aromathérapie peuvent avoir des effets iatrogènes, peuvent être toxiques, donc c'est pas non plus à manier n'importe comment.
Alors c'est ce que j'allais dire justement, phytothérapie, aromathérapie, ce sont donc des naturothérapies, puisqu'on va essayer d'agir sur... Enfin, souvent on va agir sur un symptôme. Pour la petite anecdote, qui n'est pas une super anecdote, mais moi j'avais fait une formation en naturo et aromathérapie en sortie d'études. Alors pourquoi ? Parce que j'étais très curieux. J'avais fait ça à Toulouse, j'étais encore en France. Et j'avais trouvé ça intéressant et il m'est arrivé, j'utilise un petit peu moins, mais il m'est arrivé de proposer ou en tout cas de suggérer quelques plantes phyto ou aromas sur des douleurs musculo-squelettiques par exemple.
Je pense que c'est un très bon outil, tu vois, c'est un très bon outil, mais qu'il faut essayer de remettre à sa place. C'est-à-dire que pour le sportif, par exemple, au lieu de le mettre sous un anti-inflammatoire qui va lui abîmer l'estomac et qui va le rendre quasiment dépendant de cet anti-inflammatoire, on peut travailler avec des plantes anti-inflammatoires, on peut travailler avec des huiles essentielles pour avoir des résultats quasi similaires avec beaucoup moins d'effets secondaires. Donc ça peut être très intéressant, mais il faut essayer toujours de revenir à la cause. Si par exemple, toi dans ta discipline en ostéopathie, tu te retrouves avec un patient qui a toujours la même blessure chronique, évidemment que tu ne vas pas lui donner des huiles essentielles et tu ne vas pas lui donner des anti-inflammatoires, tu vas essayer de comprendre la cause de son entorse chronique et tu vas essayer de corriger la cause.
Oui, tout à fait, c'est ça. C'est que, par exemple, sur la consultation, tu vas essayer d'aller comprendre l'origine du problème. Rien ne t'empêche de travailler aussi un petit peu la cheville pour... ça dépend du niveau d'entorse, mais admettons il y a un problème à la cheville. Tu peux aller travailler la cheville pour la déverrouiller, pour que ça aille un petit peu mieux. Tu peux suggérer un peu de Gaultérie, tu peux suggérer... J'en ai oublié beaucoup, mais je sais que l'eucalyptus aussi était... La menthe poivrée aussi pouvait calmer certaines douleurs. Tu peux le suggérer parce que ça va faire du bien, mais en fait, quand tu fais ça, donc tu es dans la naturothérapie où tu vas essayer de soulager le problème. En ostéo, par exemple, sur cette consultation-là, sur un problème de cheville, tu vas essayer d'aller remonter un peu plus haut et de comprendre pourquoi il se blesse toujours sur cette cheville. Est-ce qu'il y a eu des antécédents? Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'il y a un défaut d'équilibre au niveau du bassin qui fait qu'il y a plus de contraintes sur la cheville, par exemple? Et alors là, c'est à la fois de la naturothérapie et en même temps de la naturopathie. Parce que tu traites le symptôme de manière naturelle, mais en même temps, tu cherches l'origine et corriger la source du problème.
Mais il faut qu'il y ait un peu des deux. Et c'est comme ça que la médecine allopathique, même médicamenteuse, peut travailler main dans la main avec les médecines traditionnelles qui cherchent les causes. C'est pour ça que je ne suis pas un anti-allopathe. Je pense que l'allopathie, elle a une place qu'elle doit garder, mais aujourd'hui, elle a tendance à... Enfin, les gens, c'est les gens, si tu veux, c'est les patients qui ont tendance à aller rechercher uniquement des solutions symptomatiques.
Alors, tu me parlais qu'il y avait plusieurs axes de travaux et de en tout cas plusieurs techniques. Je sais pas comment on peut dire ça, mais plusieurs techniques ou plusieurs axes de travaux à l'intérieur de la naturothérapie. On a vu la phyto, on a vu il y a de l'aroma. Tu m'as parlé de l'hydrothérapie.
Alors l'hydrothérapie, c'est toutes les thérapies en rapport avec l'eau. Alors ça peut être les bains froids, ça peut être léger, ça peut être le sauna, ça peut être les techniques avec l'argilothérapie par exemple, l'argile, tout ce qui vient en fait, tout ce qui est en rapport avec l'eau en quelque sorte. Donc ça peut être l'hydrothérapie du côlon par exemple, les lavements par pression. Donc il y a énormément de techniques qui vont être liées à l'eau. Alors il y a des techniques aussi comme le jeûne. Tous les types de jeûnes qui sont très très connus en naturopathie, on parle beaucoup de jeûnes en naturopathie, il y a plein de formes de jeûnes, aujourd'hui c'est quelque chose qui revient énormément à la mode, pas forcément dans le bon sens, dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas forcément utilisé toujours à bon escient et qui est mal compris, Il y a toutes les techniques de réflexologie, donc l'auriculothérapie, la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire. Après, je pense que ça, c'est un peu plus ton domaine. Moi, je n'ai pas touché à la réflexologie. On a les
non,
techniques.
Non
bon, bah, mais en tout cas, je sais que généralement, on va plutôt retrouver ça dans les cabinets d'ostéo ou de chiro qui vont essayer de se diversifier. Il y a toutes les techniques nutrithérapeutiques, donc micronutritionnelles, combler les carences avec des micronutriments, avec des vitamines, donc des compléments alimentaires. Et ça, on est plutôt dans ce qu'on appelle la nutrithérapie. La nutrithérapie, c'est une discipline presque à part entière aujourd'hui, parce qu'il y a des formations, il y a des diplômes de micronutrition, de nutrithérapie, ce que je fais cette année. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Alors la médecine fonctionnelle, c'est réservé aux médecins, mais la médecine fonctionnelle, finalement, c'est la naturopathie chez les médecins, en quelque sorte.
Mais ce que je comprends au final, c'est que la naturopathie n'est pas une discipline ou une comment c'est un concept en fait. C'est un concept, c'est une façon de voir les choses et à l'intérieur de laquelle il y a différentes disciplines, tu vois.
Exactement, exactement.
Okay.
Si tu veux, la médecine chinoise, par exemple, un médecin chinois, il peut très bien décider d'utiliser, je ne sais pas s'il est en France, des plantes occidentales, des plantes françaises, des plantes du territoire français. Et dans ce cas-là, vu qu'il n'utilise pas des plantes chinoises, on va dire qu'il fait de la naturopathie. Mais c'est un concept, en fait. C'est un concept traditionnel où on va s'intéresser aux causes. Alors, il y a toute une philosophie derrière. Et la médecine chinoise, bon, c'est un peu plus complexe. Il y a toute une philosophie aussi. Mais en France, en tout cas en Occident, la naturopathie, elle ne doit pas être systématiquement reliée aux plantes, reliée aux jeunes, par exemple. Il y a vraiment, en fonction du thérapeute, une affinité qui va se créer avec certaines disciplines. Il y a aussi l'homéopathie. Hein. L'homéopathie, c'est une discipline qui fait partie de la naturopathie. Enfin, même si les homéopathes estiment faire une discipline à part entière. Et tout, en fait, tout doit être relié. On doit accepter de ne pas forcément mettre la naturopathie dans une case, la médecine allopathique dans une case. Ce qui compte en tant que naturopathe ou thérapeute ou peu importe, c'est faire en sorte que le patient aille mieux en réglant ses causes et en essayant de respecter les principes d'Hippocrate, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire, c'est-à-dire de ne pas nuire au patient en lui donnant des traitements qui vont lui faire plus de mal que de bien.
Et ce qui m'embête un petit peu, à la limite, c'est étant donné que la naturopathie est plus un concept, une façon de voir les choses et une façon d'aborder la santé et la rémission, plus qu'une discipline technique, c'est comment on peut se former en naturopathie, comment on peut avoir un diplôme de naturopathe si on n'a pas finalement étudié toutes les disciplines qui rentrent à l'intérieur. Comment on choisit sa formation et comment on peut former quelqu'un pour qu'il termine en étant naturopathe alors que c'est un concept et c'est pas une discipline, tu vois. J'ai un peu du mal à comprendre comment on peut former quelqu'un en naturopathie, quoi.
En fait, si tu veux, en France, la naturopathie déjà n'est pas réglementée. C'est-à-dire que chaque école peut décider de mettre des contenus avec lesquels ils ont des affinités. Même s'il y a des bases, il y a des fondements, il y a ce qu'on appelle la naturopathie orthodoxe, c'est-à-dire des fondements qui sont aujourd'hui remis en question par ce qu'on appelle la naturopathie scientifique, qui va être pas allopathique, mais qui va se baser un peu plus sur des faits concrets. Et si tu veux, vu que la naturopathie n'est pas réglementée en France, c'est un peu complexe, c'est très complexe de trouver une école. Enfin, il faut regarder les programmes de formation déjà, et il ne faut pas s'arrêter de se former. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir un certificat, un diplôme d'école qui ne va pas être reconnu, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que la seule façon de travailler, c'est d'avoir une assurance qui nous permet de prendre en charge des patients. Et après, en fonction de ses affinités, par exemple, moi, la mienne, c'est la nutrithérapie, c'est la micronutrition, ben, on va continuer à se former, à part si on a eu un cursus qui était très dense. Mais le problème, c'est qu'en France, les formations, moi, par exemple, sur 3 ans, j'ai fait 800 heures. En Suisse, c'est 3000 heures sur 5 ans. Tu vois, en Suisse, en Allemagne, c'est beaucoup plus, c'est 3 fois plus, plus que 3 fois plus, c'est 5 ans d'études, c'est un diplôme qui est reconnu, C'est un diplôme qui permet d'exercer, qui permet d'avoir des remboursements. En Allemagne, on appelle ça des Heilpraktiker. Ils sont presque au même niveau que les médecins. Ils ont le droit de prescrire, ils ont le droit de lire des radios, ils ont le droit de faire des petites interventions chirurgicales. Donc en France, on est sur un niveau qui est vraiment bien en dessous des pays frontaliers et bien en dessous du niveau qu'il y a au Canada. Au Canada, je sais que la naturopathie est bien plus avancée. Donc en France, c'est à nous, petits naturopathes, de continuer les formations, d'apprendre, de ne pas s'arrêter au diplôme d'école qui nous aura juste donné des notions de base. Et en fonction de l'école, alors moi j'ai eu la chance d'avoir que des médecins en prof, mais des médecins naturopathes, c'est-à-dire des naturopathes qui sont devenus médecins ou inversement, et qui nous ont fourni un contenu, on va dire, un peu plus solide, si je puis dire, même si je ne remets pas en question le contenu qu'on peut avoir dans certaines formations où ce n'est pas forcément science-based, mais médecine, quoi.
Ok, bon, toi tu pratiques quelle discipline toi, à l'intérieur de cette neuropathie? Alors, à quoi tu as été formé? Est-ce que tu as plus été formé à la phyto, plus à l'aroma? Et puis qu'est-ce que tu utilises peut-être dans tes consultations? C'est quoi ton approche?
Moi j'ai eu une approche plutôt, comme je te disais, scientifique, c'est-à-dire un peu plus. Notre prof c'était un médecin, donc on a eu la physiopathologie, on a eu tous les cours. Un peu plus simplifié que les cours de médecine, mais des cours vraiment de physio. Donc on essaye de travailler de la même manière que le médecin, sauf qu'on va utiliser d'autres formes de traitement et on va s'intéresser aux causes. Par exemple, sur le système digestif, au lieu de donner des IPP, c'est-à-dire des médicaments qui vont stopper l'acidité gastrique, qui vont donner plein d'effets secondaires, on va s'intéresser aux causes de l'hyperacidité gastrique, donc des causes qui peuvent être émotionnelles, des causes qui peuvent être liées au stress, des causes qui peuvent être liées à des gaz, à une dysbiose intestinale. Donc on va juste garder la même base que la médecine classique, sauf qu'on va utiliser des traitements. Alors moi, mes affinités sont avec la micronutrition, la nutrithérapie, la phytothérapie, l'aroma. Il y en a qui vont utiliser les thérapies manuelles, par exemple sur le système digestif, une façon naturelle de régler un problème de spasme, par exemple. C'est la thérapie manuelle. Tu sais drainer un foie, tu sais manipuler les viscères. Ça, on peut dire que c'est de la naturopathie. Donc moi, ça va plutôt être, pardon, pour répondre à ta question, la nutrithérapie, la micronutrition, la phyto, l'aroma.
Ok, alors micronutrition, moi je suis curieux, parce que nutrithérapie, je vous imaginais que tu traites par la nutrition. Donc,
ouais. Nutrithérapie et micronutrition, c'est un synonyme. Hein. Quand on parle de nutrithérapie, on parle de la micronutrition.
Alors pourquoi micronutrition? C'est parce que tu t'intéresses aux micro-éléments?
Voilà, exactement, on s'intéresse aux micronutriments, donc pas uniquement les glucides, les lipides et les protéines, on va s'intéresser aux vitamines, aux oligo-éléments, aux minéraux, aux acides aminés,
ouais,
aux acides gras.
Alors, très, très important, ça c'est sûr, très important, les micro-éléments et les oligo-éléments, ça c'est d'une. Enfin, il n'y a plus de doute, mais alors comment tu fais pour. Je ne sais pas si on peut dire diagnostiquer qu'il y a un déficit par exemple un déficit de magnésium, un déficit de calcium, etc. Comment tu le diagnostiques parce que ça c'est le médecin et le bilan sanguin qui va le révéler. Et alors pour ce qui est de l'oligo-élément, ça c'est bonne chance quoi. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a un test qui fait que tu montres qu'il y a un déficit. Ensuite, t'envoies du complément, quoi. C'est-à-dire que tu vas prescrire entre guillemets.
En fait, moi, je travaille ce qu'on appelle en biologie préventive, c'est-à-dire que je travaille avec les compléments alimentaires sur des bases d'analyse. Donc, en fonction du patient, il faut aussi savoir que les analyses, les bilans biologiques un peu plus spécifiques sur les micronutriments ne sont pas remboursés et sont très coûteux pour le patient. Donc, quand le patient est OK pour faire des analyses complémentaires qui ne seront pas remboursées, et ben je travaille spécifiquement avec ça. Donc, je ne sais pas, par exemple, je vais mesurer une fonction thyroïdienne, je vais demander l'iode urinaire, je vais demander l'hormone T3, je vais demander l'hormone T3 reverse, je vais demander la vitamine D, le zinc, le sélénium, je vais adapter d'abord l'alimentation pour qu'elle soit plus riche en micronutriments, et après, si besoin, j'utiliserai une complémentation alimentaire. Mais en naturopathie, on a des signes, on a des éléments qui nous permettent, via le questionnaire, qui nous permettent de connaître certains déficits micronutritionnels. Et après, on se fie aussi à certaines logiques en quelque sorte au niveau de l'analyse nutritionnelle. Par exemple, si une personne, je sais pas, je vais donner un exemple au hasard, ne mange jamais de produits animaux, eh bien on peut quand même suspecter qu'il y a une carence en B12, que la ferritine, si c'est une femme, risque d'être dans les choux, qu'il risque d'y avoir un déficit en iode, qu'il risque d'y avoir un déficit en vitamine A, en rétinol. Enfin, c'est d'abord le questionnaire, d'abord l'analyse micronutritionnelle, et si la personne est OK, si la personne a les moyens, on vérifie ça par ce qu'on appelle la biologie d'investigation en demandant des analyses un peu plus poussées qui ne sont pas remboursées.
Et je renvoie à tous ceux qui sont véganes ou alors qui veulent tester le véganisme à l'épisode que j'avais enregistré avec Jérémy Pigeon sur comment devenir végane quand on est sportif et continuer malgré tout à progresser. Je fais un petit peu d'auto-promo à l'intérieur de mon podcast. Alors si tu prends de la vitamine B12 pour essayer de compenser certaines carences que tu peux avoir si tu es végane, à ce moment-là tu fais de la naturopathie sur toi-même en fait.
Ouais, je fais de la micronutrition, je fais de la naturopathie, ouais, en quelque sorte.
Et, alors c'est marrant parce que justement moi tu vois dans mes questions et dans mes petites notes j'avais écrit de parler un petit peu de la distinction avec les compléments alimentaires, mais en fait les compléments alimentaires il n'y a pas de distinction avec la naturopathie parce que tu peux prendre des protéines. Alors bon, complément alimentaire, magnésium, protéines, c'est pas que les protéines, hein, on est d'accord. Mais quand tu prends des protéines en poudre, par exemple, c'est une forme de naturopathie.
Si y a un besoin, c'est-à-dire que si tu estimes qu'en prenant des protéines en poudre, tu réponds à un réel besoin du corps et que ce besoin, le fait de combler cette carence permet d'améliorer quelque chose, eh ben on peut estimer oui que c'est de la naturopathie, de la micronutrition, même si dans la tradition naturopathique on va toujours essayer de revenir à une alimentation avant une complémentation, c'est-à-dire travailler sur l'alimentation, travailler sur ce qu'on appelle en naturopathie l'hygiénisme, c'est-à-dire remettre le corps dans les conditions dans lesquelles il est censé évoluer, c'est-à-dire un environnement non pollué, proche de la nature, avec une haute qualité, avec le moins de pollution électromagnétique, avec un environnement social, un travail qui lui permet de s'épanouir, avec une alimentation biologique qui n'est pas pesticidée et qui a pu pousser sur un terrain fertile, donc pas de monoculture, pas d'agriculture intensive, même biologique, ça marche pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, combien de personnes sont prêtes à changer de vie. Combien de personnes sont prêtes à renoncer à un certain confort pour revenir à, enfin, encore tout dépend ce qu'on appelle confort, combien de personnes sont prêtes à revenir à une hygiène de vie bien plus proche de ce qui est censé être physiologique.
Et parce ouais, que. Bah, mais moi je vais te le dire, hein, ces personnes-là, la plupart du temps, c'est des personnes qui ont des problèmes de santé et qui sont un petit peu contraints d'aller jusque-là dans la compréhension, la réflexion. Pour passer sur ce genre de façon de penser, avant d'avoir une problématique, on sait tous, hein, quand on a autour de 20 ans, on n'a pas de douleur, on n'a pas de problème de santé, il n'y a rien, on mange n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Pourquoi se sacrifier, pourquoi manger, cuisiner, etc., alors qu'on peut aller au McDo et puis finalement ça ne change rien du tout. Donc tu vas me dire si je me trompe, mais je pense qu'on passe là-dedans quand on a probablement eu des problèmes de santé, ou alors une certaine minorité qui veut vraiment être le plus en forme, mais c'est rarement autour de 20 ans.
C'est sûr. Il y a une réflexion à avoir. C'est une question aussi d'éducation. Je pense que c'est aussi dans le milieu dans lequel on évolue. Mais souvent, comme tu l'as dit, il faut d'abord se casser la figure pour réfléchir et pour pouvoir résolver son mode de vie, quoi.
Et petite colle, excuse-moi, je ne sais pas si je t'ai coupé, peut-être tu étais dans une réflexion, si tu as envie de poursuivre, je t'en prie.
Non, c'est bon.
Petite colle que j'ai qui me vient. Donc effectivement, la prise de compléments alimentaires, à savoir des protéines en poudre, et comme ça, hop, on rebascule un peu sur le sportif et le pratiquant de musculation classique ou celui qui aime bien s'entraîner. La prise de compléments, ça peut être vu comme une façon de faire de la naturopathie. Le mieux, la priorité reste évidemment la nourriture brute, d'apporter ces protéines par l'alimentation classique, à savoir soit viande, œufs, poissons, et si on est vegan, plus sur les oléagineux, toutes les sources de protéines végétales. Mais on peut utiliser les protéines qui sont un produit industriel. Et alors, si je vais encore un peu plus dans ma pensée, si on décide de se supplémenter, par exemple, en magnésium, de prendre des gélules de magnésium parce qu'on sait que c'est bon pour la santé, parce que ou même des oméga 3, hein, ça peut être magnésium oméga 3, mais qui est considéré comme un petit peu plus comme santé. En général, les protéines sont rarement vues comme un complément santé, là où les oméga 3, là où le magnésium va être vu comme un complément santé. Ce sont des compléments qui sont industriels. Alors, c'est ça qui est, tu vois le petit paradoxe entre je me complémente en magnésium parce que c'est bon pour la santé, parce que on est en plein dans la naturopathie, mais en même temps, ça reste quand même un produit qui est industriel. Et alors, comment on se place là-dessus ?
Eh ben, on se place avec la même réflexion que j'ai eue tout à l'heure, c'est-à-dire te dire que ce sera. Alors, si vraiment tu as une carence en magnésium, comme beaucoup de personnes, il vaut mieux se complémenter que même avec des molécules de synthèse plutôt que de ne rien faire si on n'arrive pas à capter suffisamment de magnésium dans l'alimentation. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les aliments, même biologiques, sont complètement appauvris de leurs micronutriments et on a du mal à trouver du magnésium dans nos légumes, dans nos céréales. Donc la complémentation en magnésium, elle sera toujours plus bénéfique, même si elle est de synthèse, que de ne pas se complémenter. Maintenant, l'idéal, si on veut vraiment avoir une réflexion santé, durable, c'est de ne pas engendrer de carence en magnésium et de vivre. Parce que la carence en magnésium, on va l'engendrer, par exemple, quand on est très stressé, quand on est beaucoup trop actif, quand on fait trop de sport. Et donc, de vivre une vie plus zen. Vivre une vie plus zen, proche de la nature. Et en essayant, si on veut vraiment aller pousser la réflexion, cultiver ses propres légumes. Mmh. Avoir son terrain, faire de la permaculture. Et là, on n'a pas besoin de rentrer dans une béquille, parce que la complémentation alimentaire aujourd'hui de synthèse, ça reste une béquille qui peut parfois être un paradoxe avec ce que la naturopathie prône, mais qui semble indispensable pour certaines personnes.
Et si on pousse la réflexion encore un petit peu plus loin, sur le sportif, celui qui s'entraîne régulièrement, qui est encore dans un contexte de santé, hein, qui n'est pas là pour performer, pour faire de la compétition, mais qui est quelqu'un qui s'entraîne entre au minimum 4 fois par semaine dans une activité qui lui demande de la récupération, il va avoir des besoins qui vont être accrus, qui vont être plus demandants que quelqu'un qui est sédentaire. Jusque-là, on est d'accord, hein, j'invente rien. Et alors, ce qui se dit récemment, poursuivre des travaux de certains là-dedans, c'est que par exemple le sportif va surtout manquer, enfin surtout, il va manquer de plein de choses s'il adapte pas son alimentation, mais par exemple de collagène, puisque dans l'alimentation moderne, il va manquer un petit peu de collagène. De manière générale, comme tu le disais là pour le magnésium, c'est difficile c'est difficile d'avoir un bon apport. Alors il va essayer de se nourrir bio, il va essayer de manger la peau alors peut-être pas aller jusqu'à se faire des bouillons d'os. Mais en tout cas il va acheter du poulet fermier bio, et puis il va manger la peau du poulet, et puis il va un petit peu, peut-être pas croquer dans les cartilages, mais tu vois un petit peu l'idée, quoi. Il va pas manger que de la viande industrielle.
Ouais.
Mais il va quand même avoir un petit déficit en collagène, parce que malgré tout, même s'il fait les choses bien, peut-être que sa dépense et son activité fait qu'il lui manque encore plus de collagène. Alors, il va devoir peut-être à ce moment-là aller dans une boutique ou sur Internet pour prendre du collagène en plus. Et est-ce que finalement, le fait de vouloir être en santé par le sport te met dans une situation de non-santé, parce qu'il va te manquer le collagène de manière brute ? Et est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue ?
Je comprends ta question. En fait, déjà, une personne qui fait 4 heures de sport, enfin 4 entraînements de sport par semaine, si on compare notre dépense énergétique il y a un siècle, pour moi, c'est pas un sportif. C'est-à-dire que moi, je m'entraîne 4 fois par semaine, je me considère pas comme un sportif qui a des besoins accrus. C'est-à-dire que c'est pas avec 4 entraînements par semaine, même des entraînements intensifs, que forcément tu vas créer des carences. On n'est pas encore sur quelque chose de pathologique. Maintenant, si on est dans une activité qui est très très nécessitante, un triathlète qui va s'entraîner 2 fois par jour, 3 fois par jour, ou un sportif de haut niveau qui a un gros gros volume d'entraînement et qui à côté de ça, une grosse charge mentale et qui ne dort pas suffisamment, évidemment qu'il va devoir travailler avec des béquilles. Mais il faut savoir une chose, c'est que le sport crée des adaptations positives s'il est fait correctement et s'il y a une notion de surcharge progressive. Donc si on s'entraîne progressivement, il y a une adaptation, on n'a pas besoin de supplémenter systématiquement. On va être de plus en plus fort, de plus en plus résistant, et on va si tu veux, aujourd'hui, il y a un truc qui m'embête avec le collagène, c'est que chaque fois que tu vois... des gens qui parlent de « Ah bah tiens, on a un manque de ça, on a un manque de ça », derrière tu vois des marques qui commencent à se lancer pour vendre le complément. Donc je sais pas si réellement le collagène c'est un réel besoin pour les sportifs, et vraiment je ne sais pas, je n'ai pas d'avis si c'est un réel besoin ou si c'est quelque chose qui a été poussé par certaines marques de compléments alimentaires qui ont utilisé d'autres influenceurs pour créer un problème et apporter la solution derrière. Donc j'estime que quand on fait 4 entraînements de sport par semaine, on n'a pas des besoins accrus, on n'a pas besoin de se complémenter. On peut, malgré certains micronutriments, et ça il faut se référer aux études du Val-de-Marne, l'étude Suvimax, qui montre les carences en micronutriments en France. C'était en 99, mais elle est encore d'actualité, encore plus maintenant. On voit que le zinc, que la vitamine B6, que la vitamine D, que le magnésium, tout ça, on n'en retrouve plus dans nos aliments et que c'est plus de 50% de la population qui est carencée ou qui est déficitaire. Donc on peut plutôt se référer à ce genre de choses et estimer qu'il y a peut-être un petit besoin de se complémenter au niveau des vitamines, des oligo-éléments que je t'ai cité. Mais pas forcément le collagène, je vais te dire, je sais pas. Et ce qui m'embête, c'est, comme je t'ai dit, c'est qu'il y a toujours des marques derrière qui cherchent à revendre des produits. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui est poussé, qui est engrangé par les marques, ou si c'est un réel besoin.
Je vois. J'ai pris le collagène c'était pour l'exemple, ça pouvait être autre chose, mais c'est ce que j'avais en tête. Donc est-ce qu'on pourrait résumer sur, un 4 entraînements par semaine? Je pense qu'on est sur, comme tu disais, on n'est pas sur un gros volume, enfin c'est pas considéré comme quelque chose d'énorme, en tout cas pour toi. C'est vrai, quand on prend un peu de recul, aujourd'hui, s'entraîner 4 fois de manière générale pour la population, pas forcément sportive, pour la population générale, c'est considéré comme beaucoup. C'est 4 fois par semaine, 4 heures de sport par semaine, c'est beaucoup. C'est vrai que quand on prend un peu de recul par rapport à nos ancêtres, c'est finalement pas beaucoup, parce que quand on sait qu'une journée ça fait 24 heures...
C'est rien du tout. Et que... C'est rien, on est sédentaire. On est sédentaire, tu sais. Je sais pas, par exemple, un mec qui travaille dans le bâtiment et qui fait zéro sport par semaine, pour moi, il est beaucoup plus sportif qu'un crossfitter qui s'entraîne 5 fois par semaine, 1 heure à fond et qui reste assis toute la journée.
Ouais, devant son écran d'ordinateur et qui en plus peut-être ne s'alimente pas forcément. Alors, pour conclure, est-ce que si on prend la majorité. Je pense que la majorité des personnes qui s'entraînent en salle de sport ou qui font un peu de fitness, crossfit ou si on prend vraiment la moyenne, hein, on doit tourner autour de peut-être 4 entraînements par semaine. En fait, on peut conclure que les compléments alimentaires ne serviraient à rien en théorie. Il faudrait améliorer son alimentation et ça suffirait largement, sauf cas particulier où tu ne pourrais pas drastiquement améliorer ton alimentation et tu serais obligé de passer par un complément. Mais en fait, est-ce que ce que tu nous dis là, c'est qu'au final, en faisant vraiment les choses bien d'un point de vue nutrition, il n'y aurait pas du tout besoin de compléments alimentaires pour 99% de la population de sportive?
Pour ce qui est de la complémentation alimentaire axée sport, oui, clairement, pour moi, c'est du bullshit. Hein. Comme je t'ai dit, c'est les marques, hein, qui poussent la consommation, qui poussent les gens à faire croire qu'ils ont un réel besoin. Mais oui, pour 99% des sportifs amateurs en salle, il n'y a pas besoin de se complémenter, il n'y a pas besoin de prendre des BCA, il n'y a pas besoin de prendre des oméga 3, il n'y a pas besoin de prendre des protéines en poudre, il n'y a pas besoin de prendre des boosters, des trucs pour la récupération, etc. Tout ça, c'est des conneries. Maintenant, il y a des cas spécifiques, il y a des micronutriments qu'on trouve plus suffisamment dans notre alimentation, et là on est plutôt sur l'aspect santé. Sur l'aspect santé, il y a des choses indispensables. Par exemple, je sais pas, tu regardes les gens qui habitent dans l'hémisphère nord, même au-dessus de la latitude de Barcelone tout simplement, eh bien l'exposition solaire est pas suffisante. L'exposition solaire est pas suffisante. Tu prends un Africain, une peau noire qui habite à Paris, tu fais un bilan sanguin, tu vois systématiquement s'il se complémente pas, qu'il a une carence en vitamine D. Une carence en vitamine D qui peut poser énormément de problèmes et qui peut parfois être très sévère. Donc pour ce qui est de l'aspect sportif, complément alimentaire sportif, j'estime qu'il y a un marché qui n'est pas justifié. Évidemment, c'est justifié économiquement, mais c'est pas justifié pour l'augmentation des performances. Et parfois même, ça peut aller à contre-courant de la performance.
Et justement, tu as des exemples sur le contre-courant de la performance?
Bien sûr. Ce que je te disais tout à l'heure, consommer trop de protéines, s'acidifier, favoriser les tendinites, consommer des nutriments, des micronutriments, je sais pas, avant la séance, pendant la séance, qui vont bloquer l'entraînement parce que bah, ça va engranger une digestion qui va coûter de l'énergie. Ça peut être plein de les compléments alimentaires en règle générale, type musculation, sont bourrés d'additifs, des additifs qui parfois sont cancérigènes, des cancérigènes avérés. Il y a énormément de nanoparticules. Quand les compléments alimentaires viennent des États-Unis, il y a eu un rapport de l'ANSES qui montrait qu'il y avait 18% des compléments alimentaires qui venaient des États-Unis qui contenaient des substances anabolisantes. Donc, c'est pas anodin. Si tu veux, le marché du complément alimentaire, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a pas mal de cochonneries. Je sais pas si tu connais le Jack 3D. Le Jack 3D, il avait été interdit en France parce que
Ouais.
il y avait des amphétamines dedans. Donc, il y avait de la cocaïne, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas,
Oui,
il y avait ce
c'est pour ça qu'il marchait si bien d'ailleurs.
Et il y a certains compléments alimentaires, il faudrait se poser des questions. Pourquoi ils marchent si bien alors que c'est que des protéines, tu vois?
Et il y avait, ouais, effectivement, il y avait eu même il y a quelques années en France un booster. Je vais pas citer le nom parce que j'ai pas envie d'avoir d'ennuis. Je sais pas trop si on peut le dire, qui avait explosé parce que il donnait des effets de fou. Ça te filait une patate de fou. Alors moi, je l'ai jamais testé. J'ai jamais été un grand fan des boosters, les pré-workouts comme on dit. C'est ce que tu t'enfiles juste avant de faire une séance et qui te met, t'es bourré de caféine, bourré de trucs qui est censé te mettre en folie. Et c'était un complément qui a ensuite été retiré. Ils ont dû changer la formule parce qu'effectivement, il y avait à l'intérieur une molécule qui était peut-être pas jusqu'à faire les mêmes effets qu'un Jack 3D, mais qui était. Enfin, tu vois de quoi je parle.
Je vois très bien.
Ouais.
Je vois très bien.
Donc effectivement, faut
Mais
faire
oui,
attention.
mais si on parle des effets secondaires, bah évidemment les boosters, les pré-workouts, hein, ce que beaucoup consomment, notamment dans le CrossFit, bah ça a un effet pervers. Pourquoi? Parce que c'est de la caféine à très haute dose qui va sur le long terme bah, créer une addiction à la caféine et qui va vous rendre tout simplement mou et complètement aller à l'encontre de la performance si vous n'en prenez plus. Donc vous allez être obligé d'augmenter les doses, sauf que c'est des stimulants qui demandent bah, aux glandes surrénales de fabriquer beaucoup d'adrénaline. Et à long terme, bah, tout ça, c'est pas anodin sur le système hormonal. Ça demande au système hormonal de travailler beaucoup trop et il peut s'épuiser. Et il peut y avoir des relais hormonales avec le cortisol qui se passe.
Justement sur le café là, j'y pense. Moi, j'avais un ami qui m'avait dit que normalement, t'avais pas besoin de café le matin pour te réveiller parce que ton corps était censé fabriquer ses propres hormones en fait pour te réveiller et le fait d'utiliser du café en fait empêcher ton corps de faire le boulot en fait et que normalement tu n'en avais pas besoin, c'était un petit peu placebo de se dire tant que j'ai pas pris mon café je suis pas réveillé. En fait en réalité tu peux avoir le même niveau de réveil sans.
Bah, le problème, c'est que, alors c'est tout à fait vrai, hein, ce qui t'a dit, le problème, c'est que plus tu prends du café, moins tu vas avoir d'énergie sans le café. Et si tu veux, le café masque la fatigue. Donc, il y a des gens qui me disent, bah, je suis jamais fatigué. Et je leur demande, mais vous prenez combien de café par jour? Bah, j'en prends entre 5 et 10. Ah bon, bah alors, essayez d'arrêter le café demain et regardez dans quel état de fatigue vous êtes. Et en fait, le problème, c'est que le café masque un réel état de fatigue. Donc, peut-être parfois un manque de sommeil, peut-être une alimentation déséquilibrée, peut-être un surmenage. Et le fait de masquer un état de fatigue bah, va à l'encontre de la récupération et va à l'encontre de la performance pour le sportif, parce que ce dont il a réellement besoin, c'est pas de se stimuler, c'est de récupérer, c'est de dormir, par exemple.
Et d'où la prudence de l'utilisation d'un pré-workout avant un entraînement qui justement, si tu vas t'entraîner, que tu es fatigué, que tu veux masquer la fatigue, bah tu risques la blessure lorsque tu vas faire ton développé couché, quoi. Beaucoup plus, quoi.
Exactement. Mais moi, ce que je peux conseiller aux gens qui ne sont pas encore addicts, et ceux qui sont addicts, bah, diminuent progressivement, mais essayez de ne jamais toucher à la caféine. Parce que bah, plus vous en prenez, plus vous en avez besoin. Donc ça, c'est un petit conseil. Moi, personnellement, j'ai jamais pris de. Enfin, j'en ai peut-être pris un ou deux dans ma vie, des cafés. Mais j'ai pas besoin de prendre de café quand je m'entraîne, quand je fais mes max, parce que je fais de la force athlétique, j'ai pas besoin de prendre de café, j'ai pas besoin de stimulants. Si tu veux, la motivation, elle doit être intrinsèque et on doit pas avoir besoin de stimulants externes pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir performer. Sinon, finalement, c'est comme une béquille et ça renvoie à quelque chose de complètement opposé à la dépense, à l'activité physique où on essaie de se dépasser, on essaie d'être plus fort. Mais si on a besoin d'une béquille, on a besoin d'un stimulant pour être plus fort, c'est un peu contre-productif.
Aujourd'hui, toi, comment tu organises ton temps? Tu fais des consultations en naturo d'un côté, tu fais des coachings sportifs de l'autre. Comment tu organises ton planning? Et ensuite, ça me permettra de te demander aussi quel type de personnes tu reçois en consultation de naturo.
Bah écoute, j'ai conservé mes deux métiers, hein, c'est-à-dire donc le coaching sportif. J'ai à peu près 50% de ma semaine qui est dédiée au coaching sportif, donc coaching individuel. Donc moi je coach des sédentaires, je coach des sportifs amateurs, des sportifs lambda, pas de sportifs de haut niveau, et 50% de ma semaine qui est utilisée pour les consultations en naturopathie. Et pendant l'année scolaire, je suis aussi formateur en BPJEPS dans un centre de formation à Paris.
Ok, et tu fais le pont entre les deux ou tes activités sont vraiment complètement séparées?
Non, je peux plus me permettre de séparer ces deux activités-là. Et d'ailleurs, je peux plus coacher comme je coachais à une époque. Je suis plus du tout dans ce que j'ai pu être, dans le no pain, no gain. Si tu veux, mon approche coaching sportive, elle est vraiment reliée à la santé et tout ce que je fais, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la performance, il faut que ce soit en rapport avec la santé. Donc ça ne veut pas dire que j'autorise pas la performance. À mon sens, c'est grâce à la santé que tu peux performer. Et la performance, si elle est bien amenée, t'amène la santé. Donc je dissocie plus les deux. Et d'ailleurs, s'il y a des étudiants du BPJEPS qui m'écoutent, hein, ils le savent bien, je fais toujours le lien entre les deux. Et je pense que, et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai passé cette formation en naturopathie, que je me suis orienté vers la naturopathie, parce que finalement, quand on réfléchit aux principes de base d'entraînement, on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes avec la notion de santé.
Et c'est quoi les problèmes de santé que tu vois donc le plus régulièrement des personnes qui viennent te consulter en naturo pour avoir peut-être une approche différente de ce qu'ils ont eu auparavant?
Alors j'ai trois, on va dire, profils. J'ai les personnes qui sont en bonne santé et qui veulent le rester et qui veulent optimiser leur santé en ayant des conseils, en adoptant une alimentation encore plus optimisée et une hygiène de vie encore plus optimale. Et j'ai une seconde catégorie qui représente à peu près 20%, c'est les sportifs qui veulent de la performance, qui veulent optimiser leur hygiène de vie, qui veulent se débarrasser de certains problèmes digestifs, par exemple, de certaines douleurs articulaires. Et j'ai, on va dire, vraiment les 40-50% de ma patientèle qui ont des pathologies qui, en général, se rapprochent plus des pathologies hypothyroïdiennes, donc tout ce qui est en rapport avec la baisse de métabolisme, des problèmes digestifs, des maladies auto-immunes, beaucoup de maladies auto-immunes. C'est impressionnant de voir à quel point les maladies auto-immunes explosent. Et une population plutôt féminine, on va dire à 70% féminine.
Ok. On pourra revenir après sur quelques maladies que je m'étais notées, dont tu en parles sur ton profil Instagram, sur un peu sur ton Facebook aussi, que j'ai regardé, tu vois, par exemple la spondylarthrite ankylosante. Des choses comme ça, je trouve ça intéressant de l'aborder, mais qui sont peut-être moins des pathologies de type sportif, enfin, qu'on retrouve chez les sportifs. Si on reste sur le pratiquant de musculation, de fitness, le sportif qui s'entraîne, peut-être pas forcément que muscu, force athlétique, haltéro, crossfit, un petit peu toutes ces disciplines, c'est quoi que tu vois le plus? Est-ce que ça reste la tendinite?
Ce que je vois le plus, c'est les épuisements. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'hommes en général qui travaillent beaucoup, qui sont mis au crossfit ou qui sont mis au HIIT, au triathlon, des sports qui demandent beaucoup, beaucoup d'entraînement, qui demandent une grosse intensité et qui sont épuisés et qui commencent à voir leur performance diminuer et qui, par-dessus, ont plein d'inflammations. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des douleurs articulaires qu'ils n'avaient pas avant lors des mêmes entraînements. Ils vont avoir des problèmes de sommeil, des problèmes de libido, des problèmes de digestion. Bref, tout ce qui va être lié à un épuisement du système. Donc c'est plutôt ce type de personnes que je rencontre le plus, en tout cas en rapport avec le sport, les personnes qui vont être susceptibles à consulter un naturopathe. En fait, si tu veux, toutes les pathologies vont être liées à un épuisement en général.
Ouais, ou un défaut de récupération.
Ouais, bien sûr,
voilà. Ouais, ouais. Bah, ce qui revient au même, hein, c'est trop de sport, pas assez de récupération. On arrive à l'épuisement.
On a vu le surentraînement. Voilà.
Et justement, le surentraînement, Bah, d'après ce que tu me dis, c'est pas un mythe. Il y a un peu deux écoles sur ça. C'est le surentraînement existe bel et bien et il va se manifester par différentes conséquences, différents symptômes. Là, comme tu le dis, ou même une tendinite pourrait de ce fait-là être considérée comme la conséquence d'un surentraînement. Et puis d'un autre côté, on a un discours qui parfois dit le surentraînement n'existe pas ou est extrêmement rare, surtout pour un athlète qui est naturel. Et si on prend en plus notre contexte moderne, où finalement, pour se surentraîner, on l'a dit tout à l'heure, hein, 4 fois par semaine d'un entraînement, c'est considéré pour la plupart des gens comme beaucoup, et on est très loin de surentraînement. Alors comment on fait la part des choses entre oui,
Moi,
ça
je pense
existe et non, on en est très loin?
en fait, si tu veux, c'est une question d'accumulation de sources de stress. Évidemment que la personne qui fait 4 entraînements par semaine, si elle faisait que 4 entraînements par semaine et que si elle avait 10 heures de sommeil et qu'elle travaillait pas et que bon, il n'y aurait pas de souci, on pourrait pas, à moins qu'elle s'entraîne n'importe comment, on pourrait pas estimer qu'elle se surentraîne. Maintenant, généralement, les gens qui sont en surentraînement, c'est pas parce qu'ils font que trop de sport, c'est parce que c'est des gens qui dorment très peu, c'est des gens qui travaillent beaucoup trop, qui ont une charge mentale énorme et qui vont cumuler d'autres stress à côté. Ça peut être une malbouffe, ça peut être du tabac, ça peut être de l'alcool, ça peut être des médicaments, ça peut être plein de choses, ça peut être de la pollution atmosphérique, la pollution électromagnétique, ça peut être des traitements hormonaux. Donc, si tu veux, c'est une accumulation qui va engendrer un état de stress énorme qui va se transposer sur l'organisme, qui va donner lieu à des tendinites, des blessures. Mais pour les gens qui disent que le surentraînement n'existe pas, ben, j'ai envie de leur dire, ça se mesure, hein. Ça se mesure simplement, ça se mesure avec le cortisol,
En fait, c'est peut-être le terme qui va pas sur entraînement. Parce qu'on pense de suite, je m'entraîne trop, alors que ça peut, tu t'entraînes pas trop, mais c'est tout le reste qui fait que ça va pas,
Ouais,
quoi.
exactement. C'est ça. En fait, c'est juste un déséquilibre entre un des principes fondamentaux de l'entraînement, c'est-à-dire stress-récupération. Stress-récupération. S'il y a trop de stress et qu'il n'y a pas suffisamment de récupération sur un temps qui est trop long, bah, on arrive sur une désadaptation de l'individu, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à progresser, il n'arrive même pas à stagner, il régresse. Et à partir du moment où on est dans cette phase de régression, si elle n'est pas calculée par le préparateur physique et si ce n'est pas quelque chose de voulu, parce qu'on peut très bien avoir une stratégie où on veut encaisser énormément de volume d'entraînement, quitte à régresser un petit peu pendant un temps donné pour pouvoir derrière surcompenser et arriver à un niveau de performance supérieur au niveau initial. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est réfléchi par le préparateur physique. Mais quand c'est quelque chose qui est incontrôlé et qui n'arrive pas à être inversé, bah, je pense qu'on peut parler de surentraînement. Après, au niveau des termes, je t'avoue que je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Il y a des gens qui sont surentraînés, enfin qui s'entraînent trop, ou qui sont fatigués et qui n'ont pas suffisamment récupéré. Ils développent des symptômes et il faut s'intéresser à ces causes-là. Et donc, réguler parfois l'entraînement, parfois c'est le sommeil, parfois c'est la nourriture, parfois c'est l'hygiène émotionnelle. Si les gens sont trop stressés, si les gens ont des problèmes dans leur vie, ils peuvent rentrer en surentraînement sans forcément que ce soit l'entraînement qui soit la cause initiale.
Et tu me parlais tout à l'heure donc des maladies auto-immunes. Pour rappeler un petit peu ce que c'est, donc c'est ton propre corps qui sécrète des anticorps contre toi-même, pour vraiment vulgariser le truc, hein.
C'est ça.
Ouais, c'est ça, ok. Si je dis une bêtise, enfin si je le verbalise mal, hein, je t'en prie, tu n'hésites surtout pas à me
Non,
corriger.
c'est exactement ça.
Alors, je ne sais pas si la spondylarthrite ankylosante en fait partie. Certaines arthrites qui sont donc des troubles articulaires inflammatoires, pour appeler ça, pour dire ça bien, il y en a beaucoup qui sont donc d'origine auto-immune, c'est-à-dire que ton propre corps sécrète des anticorps qui vont te créer de l'inflammation dans ton propre corps. Je t'avoue que c'est des cours que j'ai eu là, tout ce qui est arthrite, les arthrites réactionnelles, les PPR, le rhumatisme psoriatique, des choses comme ça. Donc, ils sont des maladies inflammatoires articulaires. Malheureusement, j'ai quand même oublié beaucoup de tout ça parce que en fait, je ne le pratique pas au quotidien. Dans les consultations, j'ai très peu de personnes qui ont des rhumatismes inflammatoires chroniques. Voilà, bon, pour mettre un peu dans le contexte. Tu as des personnes, toi, qui viennent te voir avec ces maladies-là, et tu as eu de bons résultats, en tout cas, ce qui t'a amené à les partager sur tes réseaux. Et j'aimerais un petit peu savoir quel a été ton axe, comment t'as orienté ton traitement ou les thérapies que t'as mis en place sur quelqu'un. On va prendre un exemple typique, c'est spondylarthrite ankylosante. Peut-être que tu vas me dire.
Alors, en fait, si tu veux, on peut faire la différence, si on veut être très pointu, entre maladies auto-immunes et maladies inflammatoires, mais finalement, c'est un peu la même chose, dans le sens où c'est un excès d'inflammation, c'est un excès d'immunité, en quelque sorte, qui n'est pas tempéré, qui n'est pas rééquilibré par des mécanismes anti-inflammatoires. Alors, c'est très simple, en fait, finalement, ce qu'il faut, c'est diminuer les sources d'inflammation et améliorer les sources anti-inflammatoires. Alors, qu'est-ce qui inflamme? Ce qui inflamme, c'est une mauvaise digestion, par exemple. Une mauvaise digestion qui peut donner lieu à des produits, à des macronutriments qui vont passer la barrière intestinale, qui vont créer des réactions inflammatoires. Alors, pour passer la barrière intestinale, il faut que cette barrière intestinale, elle ait été abîmée, elle ait été altérée au préalable. Alors, l'alimentation moderne, le blé moderne par exemple, les produits laitiers, les produits ultra transformés, tout ça, le tabac, les hormones de synthèse, les médicaments, le stress, l'excès d'activité physique, tout ça peut favoriser une perméabilité intestinale et donc donner lieu à un passage de macromolécules dans le sang qui va engendrer une réaction inflammatoire. Ça, c'est ce qu'on appelle la genèse des maladies auto-immunes, en tout cas en médecine fonctionnelle, en naturopathie, en micronutrition, il y a un consensus pour dire que c'est la cause principale, même si quand on écoute, je sais pas, les médecins parler à la télé, ils nous donnent pas les mêmes définitions. Ils nous disent qu'on connaît pas les causes, on sait pas trop, c'est des maladies inflammatoires, c'est des maladies génétiques, etc. Alors évidemment qu'il y a toujours une part de génétique, c'est-à-dire que si on fait telle ou telle maladie inflammatoire, maladie auto-immune, c'est qu'on a une sensibilité génétique à la développer, mais ce qui va permettre aux gènes de s'exprimer ou non, c'est l'environnement. Donc c'est votre alimentation, c'est votre façon de penser, c'est votre façon de dormir, c'est tous les facteurs environnementaux qui vont permettre aux gènes de s'exprimer ou non. Donc d'exprimer de l'inflammation ou non et d'exprimer des anticorps anti-thyroïdiens pour la maladie d'Hashimoto, anti-cellules... Je sais plus, j'ai perdu le fil, excuse-moi. En tout cas, qui va créer une inflammation. Donc, comment on travaille? On enlève les produits inflammatoires, donc via l'alimentation. On favorise les processus anti-inflammatoires par la récupération. Parfois, il faut travailler en micronutrition parce que il peut y avoir un déficit de certains micronutriments qui peuvent donner lieu à un excès d'inflammation. On regarde la balance acide gras oméga-3, oméga-6. La balance acide gras oméga-3, oméga-6, qui est un facteur déterminant de l'inflammation. Donc, on essaye au maximum de diminuer les oméga-6, les graisses polyinsaturées riches en oméga-6 inflammatoires. On va favoriser une alimentation aussi riche en oméga-3, mais les oméga-3, aujourd'hui, il y a un réel, on va dire, il y a une remise en question sur la capacité ou non de protéger les oméga-3 avant de les avoir oxydés. Donc, il faut qu'il y ait un environnement antioxydant suffisamment important. Donc, on travaille avec des antioxydants qui vont aussi calmer l'inflammation. Évidemment, le repos et tout ce qui va être, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, naturothérapie, c'est-à-dire des plantes, la phyto-anti-inflammatoire, phyto-aroma, aliments anti-inflammatoires. Et si tu veux une base, il y a ce qu'on appelle le régime Seignalé. Le régime Seignalé, c'est docteur Seignalé, c'est un médecin qui a réussi à avoir des améliorations et des rémissions sur plus de 300 maladies. Qui a documenté ça, qui a écrit un livre qui s'appelle L'alimentation ou la troisième médecine. Son bouquin est encore d'actualité. Son bouquin réunit toutes les expériences, enfin tous les travaux qu'il a fait. C'est une vraie bible. Et son alimentation, elle se base sur le régime méditerranéen en fait, c'est-à-dire beaucoup d'aliments riches en micronutriments, fruits, légumes, le moins transformé possible, des céréales sans gluten, parce que le gluten aujourd'hui pose problème parce que c'est une céréale, le blé moderne est modifié, et le blé moderne modifié génétiquement pose problème parce que c'est un blé qui est très difficile à digérer. Dans le régime Seignalé, c'est une alimentation aussi qui supprime les produits laitiers de lait de vache, qui va diminuer aussi les produits cuits à haute température, donc pas de cuisson barbecue, l'huile d'olive, des huiles riche en oméga-3, mais comme je te dis, là aujourd'hui, on revient un petit peu là-dessus, dans le sens où on a peur qu'elles soient déjà oxydées, et si elles sont déjà oxydées, elles peuvent faire plus de mal que de bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est diminuer drastiquement les oméga 6, les graisses pro-inflammatoires.
Ok, bah ce qui ressemble en fait à un régime, enfin une alimentation, ce qu'on pourrait classer de santé en fait.
Tout simplement, évidemment. Mais si tu veux, les grands principes n'ont pas changé. Les grands principes n'ont pas changé, c'est juste qu'on donne des noms différents finalement. Et une chose très importante aussi, et j'avais fait une vidéo à une IGTV avec Johan qui fait beaucoup de crossfit, mais aussi le fait de, quand on est malade, quand on a une maladie inflammatoire, il faut favoriser la capacité antioxydante du corps, du coup en stimulant un petit peu les mécanismes antioxydants. Donc le sport, l'exposition au froid, tout ça peut être très intéressant justement, le jeûne, pour favoriser les processus anti-inflammatoires.
Et alors toi, quelqu'un qui vient te voir pour une maladie inflammatoire rhumatismale comme ça, enfin, on va peut-être éviter de prendre un exemple précis parce que c'est pas le but de perdre les gens, mais comment tu alors toi, ils viennent te voir directement en consultation, ils sont pas passés d'abord par la case coaching sportif, ils viennent te voir pour cette problématique parce qu'ils ont des douleurs au niveau du dos ou une articulation parce qu'ils ont de l'inflammation. Comment toi tu organises ce passage-là de « je vous ai en consultation, on améliore donc tous les axes d'amélioration possibles, nutri, tu l'as expliqué, phyto, un petit peu tout ça, et ensuite tu essayes de les amener sur la pratique d'une activité, et comment tu l'organises celle-là ? »
Bah, d'abord, je vais leur apprendre à bouger. C'est-à-dire que, par exemple, dans la spondylarthrite ankylosante, et en règle générale, dans les maladies inflammatoires, il y a une perte de mobilité. Et c'est l'amplitude dans les mouvements fonctionnels, hein, dans les mouvements classiques, sur des patterns classiques, qui va leur permettre de limiter les douleurs. En gros, on va essayer de lutter contre la sclérose des articulations, la sclérose des muscles, en essayant de travailler dans des amplitudes maximales. Donc sur des mouvements classiques de renforcement musculaire, le squat, le soulevé de terre, les tirages, les mouvements de poussée, et progressivement augmenter l'intensité, augmenter le volume, mais toujours avec derrière un feedback sur la récupération et sur le niveau inflammatoire de la personne. Parce que l'objectif, c'est pas de la surinflammer, c'est juste de la stresser un tout petit peu pour qu'elle puisse mettre en place des processus anti-inflammatoires, des processus de régénération qui vont lui permettre à long terme d'avoir de moins en moins de douleurs. Et les personnes qui se mettent au sport, qui ont des maladies inflammatoires, eh ben, très rapidement, elles se rendent compte qu'elles ont de moins en moins de douleurs et que si elles arrêtent leur activité physique, les douleurs reviennent. Donc l'activité physique, évidemment, fait partie du traitement. Et d'ailleurs, quand on parle d'activité physique, on parle aussi de naturopathie parce que c'est une des techniques naturopathiques.
Non, mais c'est très intéressant en fait parce que tu arrives à rejoindre les deux et à amener l'un à l'autre. Finalement, tu fais un petit peu ce qui est de plus en plus demandé, c'est que tu fais presque de la prescription d'activité sportive de toi-même. Je veux dire, on met le terme prescription entre guillemets, mais tu reçois quelqu'un qui peut-être a vu un médecin, qui peut-être a vu... ostéo, kiné, qui a encore beaucoup de mal à avoir des résultats. Elle a découvert sur internet la naturo, qu'on pouvait améliorer avec la phyto, avec une prise en charge globale. Toi, tu es à Paris, hein, c'est bien ça?
Je suis en région parisienne.
Région parisienne.
Je suis à Paris.
Ok. Peut-être tu peux donner l'endroit précis d'où c'est que tu pratiques.
En Seine-et-Marne, à Bussy-Saint-Georges.
Ok. Bon, alors admettons quelqu'un qui est dans le secteur cherche un naturopathe, te découvre, elle vient en consultation. Tu l'améliores un petit peu tout ce qu'on a dit et puis tu la fais basculer aussi sur un programme d'activité physique et en fait tu fais le travail de prescription de sport au final quoi. Donc ça je trouve ça
plutôt intéressant. Mais je pense que c'est indispensable de créer des environnements un peu alors c'est un terme qui est à la mode mais holistique, c'est-à-dire travailler sur plusieurs axes. Pas uniquement l'alimentation, pas uniquement le sport, pas uniquement la thérapie manuelle. Mais moi, par exemple, je travaille avec des ostéopathes, je travaille avec des hypnopraticiens, avec des sophrologues. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir, à mon sens, développer vraiment un système de santé complet et qui permet de régler des vrais problèmes de santé en travaillant sur toutes les causes, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est d'autant plus important d'avoir cette approche globale, multiple, sur des maladies et des problématiques qui sont aussi multiples qu'une spondylarthrite ankylosante qui n'est pas qu'un problème localisé avec une seule source, mais qui est global. Donc, problème global, réponse globale. Moi, je trouve ça super. Et si tu as des résultats, et nul doute que tu en as, bah, je pense que la boucle est bouclée. Si tu as quelque chose à rajouter, vas-y.
Ouais, si tu veux, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est l'allopathie. C'est-à-dire que on a de tout temps soigné les gens comme ça. Il y avait la spiritualité qui était reliée à la phytothérapie, à la naturopathie, à tout ce que tu veux, aux thérapies manuelles, à l'activité physique. Et c'est que comme ça qu'on soignait les gens jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement, jusqu'à l'avènement des antibiotiques et jusqu'à
Et oui.
l'avènement des groupes pharmaceutiques qui ont mis le pied un petit peu, qui ont en tout cas imposé leur loi dans les instances politiques, hein, et qui aujourd'hui dirigent la santé.
Mais je pense que ça vient du fait aussi que tout cet avènement allopathique avec les médicaments, avec les avancées scientifiques, technologiques, en fait, répondent à, enfin, solutionnent des problèmes rapides, en tout cas des conséquences. Pas des problèmes, mais solutionne des conséquences rapidement. Et donc, quand tu as mal à la tête ou quand tu as une infection bactérienne, par exemple, de prendre un antibiotique, ça va enlever le problème, l'infection. Je prends des exemples un peu à la con, mais quand tu as mal de tête, tu vas prendre un Doliprane ou autre chose, peu importe, et en fait, ça va solutionner ton mal de tête. Et je pense que effectivement, cette approche allopathique est récente, mais parce que par les avancées, on a réussi à enlever la conséquence très rapidement. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, si tu as un trouble, tu as un problème quelconque, voilà, il y a un choix facile qui est je prends la pilule, je prends ceci et mon problème, en tout cas ce que je ressens n'existe plus. Alors pourquoi faire un travail d'alimentation, de remise en question de soi, qui va demander un vrai sacrifice de ton hygiène de vie, de ton quotidien, alors qu'à côté on me propose une solution où j'avale un petit truc et ça va régler. La perception de ce que j'ai de mon problème, c'est-à-dire que ça va enlever mon symptôme. Donc, dans la tête de la personne, j'ai plus le symptôme, j'ai plus le problème. Donc, en fait,
Mais
c'est un peu le truc, quoi. C'est un peu le truc, c'est que
c'est
on prend la
exactement ça.
solution de facilité a priori.
Je pense que c'est une vraie éducation à retrouver. Il faut qu'on, en tout cas, tous les thérapeutes et les gens qui sont déjà un peu réveillés, il faut qu'on essaye de réveiller les autres. Parce que si ce système fonctionne, c'est parce qu'il y a des consommateurs et qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se réveiller. Donc, aux gens de se réveiller, aux gens de se responsabiliser, et je pense que tout ira mieux. Parce que forcément, les médecins seront obligés de s'adapter, parce que les gens attendront des choses un peu plus complexes que juste ah bah prenez un Doliprane. Et les médecins seront obligés de se creuser la tête. Et je vais le dire en toute humilité, si, et pas tous les médecins, parce que comme je te l'ai dit, je me suis fait former par des médecins, il y a plein de médecins qui sont à des années-lumière et qui sont exceptionnels. Mais malheureusement, il y a une majorité de médecins qui a arrêté de réfléchir et qui répond à une solution de facilité finalement. Donc si les patients demandaient aux médecins de leur rendre des comptes en quelque sorte, je pense que tout le monde avancerait et qu'il n'y aurait pas de naturopathe. Parce que les médecins feraient bien leur boulot.
Bon, je ne sais pas à quel point ce podcast influencera les gens ou portera le message, mais en tout cas, je suis content d'avoir enregistré tout ça avec toi et d'en avoir discuté. C'est un petit peu comme si on ajoutait notre pierre à l'édifice de l'amélioration qu'on essaie de voir, qu'on aimerait voir mettre en place. Voilà, ce podcast sera une petite chose en plus qui peut-être trouvera ses auditeurs et puis éveillera les consciences, comme dirait notre ami
Exactement.
de Lavier. William, pour terminer ces épisodes, je pose toujours trois petites questions de fin, très rapides. Première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre?
Je me serais peut-être mis un peu plus tôt dans la biologie, dans tout ce qui est en rapport avec la physiopathologie, parce que c'est un boulot qui est énorme et je comprends pourquoi il y a presque 10 ans d'études en médecine.
Et alors je suis un petit peu curieux, effectivement. Alors quand tu dis biologie, tu penses biologie ou plus physiologie, compréhension de l'organisme?
Biologie, physiologie, biochimie, compréhension de l'organisme.
D'accord.
Parce que, si tu veux, on n'a pas besoin de tout savoir pour pouvoir améliorer la santé d'un individu, mais là, c'est juste ma curiosité personnelle. Et j'aime bien comprendre tout sans forcément, et c'est l'erreur que beaucoup font, sans forcément jouer à l'apprenti sorcier. C'est-à-dire que avant, on soignait les gens sans forcément avoir de microscope, sans forcément avoir de bilan sanguin, et on les soignait très bien. Alors peut-être pas aussi bien qu'aujourd'hui, je sais pas, et encore ça c'est une réflexion à avoir. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui on a la possibilité de comprendre pas mal de choses et je me rends compte que c'est énormément de boulot et je pense que on devrait tous commencer un peu plus tôt, si, en tout cas si on a envie de travailler avec des patients.
Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qui l'est peut-être encore aujourd'hui ?
Ouais, mon prof, hein, mon prof, Frédéric Sardon, qui, lui, c'est un monstre, hein, il a 39 ans, il a eu 10 vies, il est devenu médecin après avoir été biologiste, après avoir été naturopathe, après avoir été prof, enfin, c'est vraiment un monstre, donc, et c'est encore un monstre, et il a une culture, mais incroyable, et évidemment, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'est pas sur Instagram, donc aujourd'hui, on se fie uniquement à la popularité des gens pour savoir s'ils sont crédibles, alors que je pense que c'est pas ce qui devrait être. Donc ouais, Frédéric Sardon, mon prof de naturo.
Parfait. Et enfin, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué que tu recommandes souvent ?
En rapport avec la naturopathie,
pas nécessairement.
Ouais.
Hein. Enfin, oui, ça peut. Je pense que si les gens veulent creuser un peu plus le sujet, ils peuvent, mais c'est ça. Pas obligé de citer un livre de naturo.
Je vais te parler du premier, vraiment premier livre que j'ai lu quand je me suis intéressé à la naturopathie, c'est celui dont je t'ai parlé, le régime signalé, la troisième médecine, l'alimentation ou la troisième médecine, qui m'a vraiment réveillé.
Ok. Écoute, je laisserai la petite référence dans les notes, la description de l'épisode, comme d'habitude, hein, si vous voulez regarder, vous faites dérouler. Il y a des notes, j'écris des trucs dans les descriptions d'épisodes, je ne sais pas si les gens regardent forcément, mais en général, il y a les références qui sont données. Parfait, je crois qu'on a fait un joli tour, c'était très intéressant. Un peu plus technique, peut-être que des épisodes précédents, enfin un peu technique, je sais pas d'ailleurs, dites-le-moi si c'est technique, écrivez un commentaire si vous êtes sur YouTube, je mets encore les podcasts sur YouTube, ou si quelque part où vous êtes, écrivez, puis donnez-moi votre retour, c'est toujours très intéressant. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, moi ça a été le cas, comme à chaque fois. Si on veut en apprendre plus sur toi, si on veut te contacter, te retrouver sur les réseaux sociaux, où c'est qu'on peut le faire?
Sur Instagram, William-8KDM. Et sur Facebook, c'est aussi William-KDM.
D'accord.
Parfait.
Bon, de toute façon, pareil, hein, je répète. On radote sur le podcast, mais c'est pas grave. Hein, vous retrouverez directement les liens dans les notes de l'épisode. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller nulle part d'autre. Vous faites dérouler, vous cliquez sur le lien, vous retrouverez William. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou peut-être un message à vouloir faire passer que tu tiens absolument à dire ?
Ouais, ce que je tiens absolument à dire, et c'est ce que je dis assez souvent, et c'est pour ça que j'ai commencé mon compte Instagram, parce que je suis pas influenceur finalement, parce que bon, en tout cas je sais pas si on peut appeler ça influenceur, mais Instagram, je vends rien dessus, je vends pas de formation, je vends pas de programme, je vends pas grand chose à part mes consultations et c'est pas vraiment, il y a pas que Instagram qui me ramène des patients, mais c'est vraiment l'objectif de base de ce compte là, c'était de responsabiliser les gens, c'est-à-dire leur donner des informations, leur dire regardez c'est gratuit, je suis pas en train de vous vendre quelque chose derrière, mais par contre derrière agissez quoi, arrêtez de d'accumuler de l'information sans mettre en place les choses. Donc agissez, arrêtez de et fermez ce podcast et mettez des choses en place.
Parfait. Alors fermez ce podcast ou non. Non, si. Mais en fait, ils peuvent l'écouter lorsqu'ils marchent dans la rue, les gens, ou lorsqu'ils font leur propre entraînement. Donc ils peuvent essayer d'agir en même temps. En tout cas, effectivement, après avoir écouté cet épisode, n'hésitez surtout pas à dire ce que vous avez pensé. Mais ça, je le rappellerai juste après dans la fin, la introduction. Je te remercie, William, d'avoir partagé tout ce savoir, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi, Jean.
Je te dis à peut-être très bientôt pour une rencontre en real life ou un autre épisode. Merci à toi.
Merci beaucoup, Jean.
Merci à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. C'est super. Si vous avez apprécié l'épisode, vous savez quoi faire comme d'habitude. C'est laisser une petite note sur Apple Podcast, l'application violette sur l'iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez essayer d'emprunter celui de votre copine, de votre copain ou même de membres de votre famille pour y laisser une petite évaluation. et donner votre avis sur le podcast en général. Depuis combien de temps vous l'écoutez? Est-ce que vous l'écoutez régulièrement? Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce qu'il y a des invités particuliers qui vous ont marqué? Et également, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez aussi faire une petite capture d'écran lorsque vous écoutez un épisode du podcast et le publier sur votre story Instagram. Comme ça, tous vos amis peuvent voir que vous écoutez l'émission et peut-être aller y jeter une oreille, eux aussi, s'ils ne connaissent pas. Et comme ça, découvrir le podcast. Si vous faites une story, n'hésitez pas à m'identifier dessus. Mon compte, c'est Biomécanique Podcast. Je l'ai ouvert il y a vraiment pas longtemps. Donc, si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner au compte. Ça n'a pas grand intérêt, sachant que j'y poste uniquement les épisodes de la semaine. Il n'y a pas vraiment de contenu particulier sur mon Instagram. Mais si vous voulez un petit peu faire gonfler mon ego en vous abonnant et en faisant grossir mon compte, c'est avec grand plaisir, évidemment. Je disais, vous pouvez m'identifier dans les stories lorsque vous écoutez le podcast, et puis je me ferai un plaisir de vous repartager en story. Pour les retardataires, il y a toujours la lettre biomécanique où vous pouvez vous inscrire si vous êtes passionné d'entraînement, de sport, de santé et de compréhension de votre mécanique, de votre morphologie aussi. Tout simplement, inscrivez-vous à la lettre biomécanique, puisque ce sont mes emails privés. J'envoie la lettre une fois par mois où je parle d'un petit peu de tous ces sujets. Je donne mes conseils, mes meilleures astuces pour améliorer votre santé, vos entraînements, et que vous compreniez un petit peu mieux comment tout ça fonctionne et que vous ayez de meilleurs résultats tout en évitant au maximum les blessures. Le lien est en description. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la toute fin. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous avez écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes les puristes qui restaient jusqu'au bout, même à la fin de l'introduction. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.